Il y a cette vidéo de prisonniers filmés au Xinjiang, déjà mise en ligne l'an dernier, mais revenue avec un écho plus fort ces derniers jours. Il y a Adrian Zenz, ce chercheur allemand qui fin juin a publié un rapport sur la stérilisation forcée des femmes ouïghours et le mot génocide désormais prononcé. Il y a aussi, hier encore, le communiqué de 190 organisations de défense des droits de l'homme qui affirme que la quasi-totalité de l'industrie du prêt-à-porter mondial profite du travail forcé des ouïghours et qui appelle les marques de vêtements à prendre leurs responsabilités. Le monde ne découvre pas, mais s'indigne peut-être davantage cette fois, une partie du monde en tout cas, qui s'indigne aussi de ce que Pékin fait à la démocratie à Hong Kong et aux libertés de manière générale, y compris quand cela passe par des outils technologiques. Dans la voie de l'administration Trump, cela donne le monde libre qui doit triompher de la nouvelle tyrannie incarnée par la Chine. Mais nous n'oublions pas la guerre commerciale ni l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. La défense des libertés est-elle l'ultime argument contre l'expansion chinoise? Voilà donc la question que nous posons ce matin. Deux invités avec nous. Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, enseignant à Sciences Po. Vous travaillez en particulier sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine et des deux Corées et sur les questions stratégiques en Asie de l'Est. Émilie Frankel également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Est-Créteil, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt. Vous travaillez sur la représentation politique, le débat politique chinois, Internet et la politique en Chine. D'abord, peut-être Antoine Bondaz, on lit beaucoup, en particulier ce matin, nouvelle guerre froide, ambiance guerre froide. Est-ce que cette expression vous paraît approprié pour parler de ce qui se passe en ce moment?
Alors, ce n'est pas une guerre froide au sens de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais il y a très clairement une hausse sans précédent des tensions depuis plusieurs décennies entre la Chine et les États-Unis. Et il y a eu hier, prononcé à la librairie Nixon, un discours extrêmement offensif de Mike Pompeo, qui reprenait d'ailleurs un article publié en 1967 dans Foreign Affairs par le président Nixon, qui appelait, je cite, « Le monde ne sera pas en sécurité tant que la Chine ne changera pas. Il faut forcer la Chine à changer. » Mike Pompeo a annoncé que, après des décennies d'attente vis-à-vis de la Chine, sûrement d'une certaine façon un narcissisme stratégique, comme certains membres de l'administration le disent en privé, l'idée que les États-Unis et ses partenaires et ses alliés réussiraient à faire changer la Chine. La Chine n'a pas changé. Il y a eu un tournant autoritaire depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et les États-Unis désormais. Alors évidemment, il y a aussi un aspect conjoncturel qui est cette élection présidentielle, mais plus largement, il y a un réveil aux États-Unis, une prise de conscience que la Chine n'a pas changé sur de nombreuses questions, qu'il y a eu ce fameux tournant autoritaire et qu'il est temps pour les États-Unis d'adopter une politique plus musclée, plus dure et peut-être encore plus coordonnée avec leurs alliés et leurs partenaires.
Émilie Frankiel, sur cette expression nouvelle guerre froide, ambiance guerre froide, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que c'est assez légitime finalement d'utiliser cette expression. On est quand même à un moment de confrontation sur le plan idéologique. On nous dit vraiment, enfin cette voix vient des États-Unis, hein, que il faut qu'il y ait une alliance des démocraties contre cette menace tyrannique, totalitaire chinoise. Donc je trouve que plus que jamais cette expression a un sens, et voilà, les événements et les annonces de ces derniers jours confirment cette tendance.
Alors nous allons revenir effectivement sur ce qu'a dit Mike Pompeo cette nuit. On l'a entendu dans la revue de presse internationale juste avant et aussi dans le journal à 7h. On va en parler avec vous. Mais d'abord aussi cette dernière information du matin, c'est donc la Chine qui demande aux États-Unis de fermer leur consulat à Chengdu, sachant que dans la semaine, les États-Unis ont fermé, eux, en tout cas demandé la fermeture du consulat chinois à Houston. Cette nuit, Mike Pompeo justement a dit que ce consulat chinois à Houston était une plaque plaque tournante de l'espionnage. Antoine Bondaz, qu'est-ce qui se joue avec ces décisions-là? Pour le coup, on n'est pas seulement dans la déclaration. Et dans quelle mesure cela marque une étape supplémentaire dans cet affrontement dont vous nous parliez?
Ce sont des mesures politiques extrêmement fortes, puisque c'est la première fois que les États-Unis ferment un consulat chinois sur leur territoire. Il y avait 5 consulats chinois aux États-Unis, en plus de l'ambassade à Washington. La décision de fermer Houston est liée, vous l'avez dit, à des craintes en termes d'espionnage, mais il ne faut pas être naïf. L'ensemble des consulats chinois aux États-Unis sont utilisés à des fins d'espionnage, de la même façon que les consulats américains en Chine ont également dans leur mission de faire de l'espionnage. Mais l'idée pour les États-Unis, c'est sur la question de la propriété intellectuelle, sur la question de l'espionnage, d'envoyer des signaux clairs que désormais, ce qui était accepté peut-être auparavant, ne le sera plus, mais également évidemment d'envoyer un message clair à la classe politique américaine et à la population américaine que le président Trump prend les choses en main, ose affronter désormais la Chine. Et évidemment, cela arrive au tout début de la campagne présidentielle, avant même qu'il y ait des débats entre Donald Trump et Joe Biden. Et on voit venir dès à présent les arguments de Donald Trump qui seront de dire « je suis fort, je suis dur vis-à-vis de cette menace », alors que Joe Biden, lui, est un faible, lui est un mou. Et là, clairement, on a ce qui se prépare dans les éléments de langage pour la campagne présidentielle, étant donné que la Chine sera, en termes de politique étrangère, le gros sujet de cette campagne 2020.
Émilie Franquiel, sur ces fermetures de consulats, donc il y a la réponse chinoise ce matin. C'était attendu, c'était logique que la Chine riposte.
En effet, c'est tout à fait logique, c'était attendu. Chengdu, donc vous l'avez dit hein, dans la revue de presse, c'était un choix stratégique assez judicieux. Je voudrais rebondir sur ce que disait Antoine Bondaz. Oui. Autant que Trump et Pompeo s'adressent à la population américaine, la riposte chinoise s'adresse avant tout à la population chinoise. Donc rappelons les chiffres, hein, 1,4 milliard de Chinois, un parti qui s'adresse à sa population, un parti qui lui-même comprend 90 millions de membres. Bien sûr, il y a énormément de diversité, à la fois au sein du parti et au sein de cette population, mais il y a une attente également donc de puissance, de réponse forte, de réponses pertinentes face à ce qui est perçu comme une agression, de plus en plus un discours xénophobe vis-à-vis des Chinois.
Oui, ce qui est ressorti aussi pendant la crise effectivement du coronavirus, et ça n'est pas oublié évidemment dans le contexte, Émilie Franquiel.
Non, bien sûr. Donc cette crise, il me semble que c'est vraiment très intéressant dans le contexte, la thématique que vous avez choisie ce matin, de revenir sur ce que la réponse à la crise sanitaire, à la fois du côté américain, mais pas seulement, aussi européen, et du côté chinois. Enfin, je pense qu'il y a des éléments vraiment intéressants pour notre débat. C'est-à-dire que la population chinoise, là, on est en train, encore une fois, dans cette rhétorique de la guerre froide, mais qui n'est quand même pas nouvelle, hein, de présenter la démocratie occidentale de façon homogène et de façon un petit peu mythique, quoi, un régime parfait. Pour les Chinois, la démocratie, c'est des choses vraiment concrètes, des résultats pratiques. Donc, qu'est-ce que ça devrait apporter à une démocratie? Ce qui est entendu, c'est un bon régime. C'est l'arrivée au pouvoir, la sélection au pouvoir des meilleurs dirigeants, des dirigeants compétents et des dirigeants intègres qui font vraiment ce qu'il faut pour leur population. Donc si on regarde la gestion de la crise sanitaire, bien sûr, il y a eu des erreurs monumentales hein, du côté de la Chine au départ, mais malgré tout, cette quarantaine très très stricte qui a eu lieu à Wuhan et qui est présentée comme un sacrifice extrêmement fort de la population pour faire gagner du temps au reste du monde, pour réagir face à ce virus redoutable. Ce sacrifice qui a été fait, ces résultats quand même si on peut douter d'une certaine façon des chiffres,
oui, sur les chiffres
qui ont été donnés par la Chine, malgré tout, il y a quand même au final, malgré même une indignation et beaucoup de colère à certains moments, au début de la crise des Chinois, quand les docteurs qui avaient voulu signaler, prévenir des collègues ont été réprimés, et puis finalement, voilà, Li Wenjiang, qui a été le premier martyr, qui a vraiment soulevé la Chine, qui est décédé du virus.
Le médecin lanceur d'alerte.
Donc il y a eu ces moments d'indignation. Et puis quand les Chinois ensuite voient ce qui se passe aux États-Unis, même en Italie, en France, en Espagne, et en Grande-Bretagne, maintenant aussi au Brésil, etc. Là, on voit que la supériorité supposée du régime démocratique en termes de performance et de bien-être de la population, mais en fait, cet argument ne tient pas.
Antoine Bondaz, vous approuvez ce que dit Émilie Frankel?
C'est vrai qu'il faut, et elle a parfaitement raison, de devoir se décentrer. La question qui se pose cependant, c'est l'utilisation par la Chine de ces mêmes éléments de langage, mais à l'étranger. Et lorsqu'elle cherche à discréditer certaines autorités chinoises, la démocratie ou les systèmes démocratiques à l'étranger. Qu'il y ait en interne, en Chine, une reconnaissance des mesures qui ont été prises, et il faut être très clair, la stratégie de la Chine, qui a été d'isoler les patients, de circonscrire l'épidémie, a été une réussite. Et que même si et comme Émilie Frankel le rappelait, les chiffres ne sont peut-être pas parfaitement fiables. De fait, il y a eu un endiguement de cette pandémie. Le problème vient quand à l'étranger, les éléments de langage des diplomates, qui là ne s'adressent plus seulement à la population chinoise, visent à discréditer par exemple la presse française, comme le fait régulièrement l'ambassade de Chine en France, sans soulever d'ailleurs l'indignation. Que ce soit de la classe politique ou plus largement, là il y a un problème. Qu'il y ait la volonté en interne de se légitimer est tout à fait normal et attendu, mais que cela se fasse à l'étranger et qu'il y ait une exportation à l'étranger, en quelque sorte, de cette bataille idéologique, que l'Europe devienne de plus en plus un terrain d'affrontement entre cette compétition idéologique entre les États-Unis et la Chine, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus problématique et qui va pousser les Européens, et notamment les Français, à devoir non seulement se positionner, mais aussi travailler sur ces questions, travailler de façon beaucoup plus approfondie et peut-être se poser des questions sur l'adaptation, la réévaluation de nos politiques, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis des États-Unis, encore une fois, dans cet affrontement et cette compétition accrue sino-américaine.
Et donc, avec ces déclarations hier soir de Mike Pompeo, la Chine d'aujourd'hui est de plus en plus autoritaire à l'intérieur du pays et plus agressive dans son hostilité face à la liberté partout ailleurs. Ça n'est pas la première fois, évidemment, que le chef de la diplomatie américaine a ce genre de discours, mais il est répété, il est accentué, martelé. Comment analysez-vous cette rhétorique, Antoine Bondaz, où finalement, vraiment, là, ce qui est mis en avant, c'est la défense des libertés?
Alors, effectivement, c'est un argument qui est de plus en plus utilisé aux États-Unis et qui est aussi politisé, il faut être extrêmement clair et honnête. Cela fait déjà depuis 2017 que les discours et les publications officielles se multiplient sur ce thème-là, que le directeur du FBI, que le conseiller national à la sécurité multiplient les discours sur ce thème. L'argument phare des États-Unis, c'est de se représenter, de se présenter comme le garant, vous l'aviez dit en introduction, du monde libre, des libertés face à la Chine, avec évidemment tous les ambiguïtés que cela peut avoir. Il faut quand même reconnaître que sur certains sujets, les Américains sont allés assez loin, sur la question du Xinjiang, par exemple.
Voilà, même alors si... je voulais en parler. Vous rappelez effectivement que sur les Ouïghours, donc il y a eu des sanctions économiques là, très récemment, visant des entreprises chinoises qui sont accusées d'avoir participé ou d'être impliquées dans les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Et vous rappelez effectivement que Donald Trump, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut-être parce qu'on ne l'attend pas là, et offensif sur cette question-là de défense des droits de l'homme en Chine.
Il faut être très clair sur la question du Xinjiang. Depuis 2017, les diplomates de nombreux pays, dont les diplomates français, sonnent l'alarme, demandent des explications à la Chine, critiquent cette politique de répression chinoise au Xinjiang. Mais les Américains sont les seuls qui récemment ont pris des mesures d'interdiction d'entrée sur les territoires américains pour certains dirigeants du Parti communiste en charge de la répression. Vous l'avez rappelé sur ces entreprises, mais aussi sur des entreprises chinoises, par exemple, dans les nouvelles technologies qui seraient complices, entre guillemets, de la surveillance des populations, etc. Et donc, les Américains cherchent à montrer qu'au-delà des discours, ils prennent des mesures et essayent d'entraîner avec eux leurs partenaires, que ce soit en Europe, mais aussi au Japon et en Australie. Mais je pense qu'il faut aller vraiment au-delà de cette question des droits de l'homme, même si c'est l'argument posé avant tout par l'administration américaine. Les États-Unis sont de nouveau dans une compétition stratégique extrêmement claire. Il y avait eu des signaux au début des années 2000, en 2001, dans un document officiel extrêmement important, présentant à l'époque la Chine comme un peer competitor. La guerre contre le terrorisme avait de fait détourné l'attention des États-Unis. Et puis depuis une bonne dizaine d'années, puisqu'il faut remettre dans le contexte, l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, le rééquilibrage vers l'Asie, la Chine est de plus en plus en haut des priorités américaines. Et là, clairement, avec l'administration Trump, et ce sera très certainement le cas avec la prochaine administration, y compris si Joe Biden est élu, la Chine sera un dossier fondamental en termes de politique étrangère. La Chine d'aujourd'hui n'étant plus la Chine, évidemment, d'il y a 20 ans, ayant un poids économique, un poids militaire et des capacités d'influence en Chine, mais surtout à l'étranger, considérables. Et les États-Unis désormais considèrent qu'il faut y faire face et il faut limiter au maximum cette influence chinoise.
Avec notamment donc cet argument de défense des droits de l'homme, Émilie Frankiel, comment est-il reçu en Chine, à la fois par le régime et par la population, si tant est qu'elle ait accès à ce genre de discours, mais sur cette défense des droits de l'homme en Chine par les États-Unis?
Alors, plusieurs choses. Quand on parle des droits de l'homme, il y a c'est difficile de trop généraliser, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un petit décalage, c'est que quand même en Chine, l'argument, officiel depuis des années, mais qui quand même porte dans la population, c'est que du point de vue américain notamment, on ne prend pas assez en compte les droits sociaux et économiques. Et la difficulté aussi, c'est que on pense la population chinoise d'une façon vraiment globale. Donc il va y avoir dans la réception chinoise, bien sûr, tous les Chinois ne sont pas au fait dans les détails du traitement actuel des musulmans au Xinjiang, enfin des Ouïghours. Ça, c'est une certitude. L'information ne passe pas intégralement, même si, bien sûr, il y a quand même beaucoup de moyens de contourner la censure en Chine. Surtout, il y a beaucoup de personnes que ça n'intéresse pas. Il faut comprendre que la population chinoise n'est pas particulièrement sensible au sort des musulmans. Des minorités en général. C'est un point important. Maintenant, l'autre problème, c'est que donc on ne parle pas de génocide, on ne s'inquiète pas, on ne connaît pas la proportion vraiment et l'horreur finalement de la politique actuelle au Xinjiang. On la connaît mal en Chine. Mais en plus de ça, Il y a un problème, c'est que cette rhétorique de guerre contre le terrorisme, elle a pu prendre en Chine parce qu'elle était, elle avait cours chez nous et aux États-Unis, mais pas seulement, et que le traitement des musulmans aussi chez nous, le discours et l'assimilation des musulmans au terrorisme, etc. C'est pas quelque chose qui est particulier à la Chine. Et donc même pour les élites chinoises mondialisées qui étudient chez nous ou qui font des allers-retours ou qui s'informent dans nos médias, quand on critique comme ça, quand on se place au-dessus en donneur de leçons, ils vont avoir tendance à relativiser en fait et se dire là il y a quand même un double discours parce que c'est évident que ça arrive chez nous, mais ça arrive aussi chez vous et là ça vous pose moins de problèmes. Et encore une fois, ce discours-là, il est possible parce que vraiment en Chine, on ne parle pas du tout d'une situation génocidaire.
Oui, alors que le mot génocide, effectivement, je le disais tout à l'heure très rapidement, Antoine Bondaz, a été utilisé là récemment, notamment sur la base de ce rapport sur les stérilisations forcées.
Effectivement, j'étais moi-même assez mal à l'aise avec le terme de génocide, puisqu'il est souvent très connoté, évidemment, en Europe. Mais les révélations sur les stérilisations forcées, et plus largement le contrôle des naissances, permet de parler de façon objective de génocide, puisque dans la Convention de 48, dans l'article 2 et notamment dans la partie D, un des 5 critères de génocide, c'est justement le contrôle des naissances d'une population. Et donc quand Libé, il y a quelques jours, fait sa une en utilisant le terme de génocide, sur le plan scientifique et entre guillemets sur le plan de l'interprétation juridique, et si ces révélations sont justifiées, alors le thème peut évidemment être utilisé.
Antoine Bonda, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Émilie Frankel, maîtresse de conférences à Paris-Est-Créteil, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique, Anna Arendt. On vous retrouve tous les deux à 8h20 après la chronique de Libération pour poursuivre cette discussion. Le journal arrive. La défense des libertés est à l'ultime argument contre l'expansion chinoise, suite de la discussion ouverte avant 8h avec nos deux invités, Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, et Émilie Frankiel, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Est-Créteil, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Anna Arendt. Nous avons parlé avant 8h de ces déclarations hier soir de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, appelant le monde libre à triompher de la nouvelle tyrannie chinoise. Nous avons parlé de la défense des droits de l'homme par les États-Unis, en particulier en ce qui concerne les Ouïghours, avec effectivement des déclarations, des condamnations dans les déclarations, mais aussi des mesures qui ont été prises, des mesures économiques récemment. Et vous nous disiez, Antoine Bondaz, effectivement, que l'administration Trump était sur ce point en première ligne. On ne peut pas en dire autant effectivement de l'Europe. Pour le moment, il n'y a pas de sanctions au niveau européen. Il y a eu cette semaine des déclarations tout de même assez fortes de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale. Vous avez qualifié ces déclarations d'importantes. En quoi sont-elles importantes ?
Alors, elles sont extrêmement importantes puisque Jean-Yves Le Drian, répondant à une question au gouvernement, a très ouvertement et officiellement critiqué la politique chinoise de répression au Xinjiang, ce que le Quai d'Orsay avait déjà fait dans des communiqués. Mais du moment où cela est fait dans l'enceinte de la représentation nationale, devant des caméras, et que cela est ensuite rediffusé, réutilisé sur les réseaux sociaux, alors il y a une caisse de résonance qui, évidemment, est tout à fait différente d'un simple communiqué publié sur le site du Quai d'Orsay. Il y a, au-delà, je pense, une prise de conscience relativement récente en France et en Europe des défis que pose la Chine. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il faudrait adopter une politique hostile vis-à-vis de la Chine ou cesser les dialogues ou les relations, mais qu'il faut prendre conscience que sur de nombreux sujets, que ce soit sur Hong Kong, que ce soit sur la 5G, que ce soit sur le Xinjiang, que ce soit sur les questions de propriété intellectuelle, de transfert de technologie, de coopération scientifique et technologique, il y a des questions légitimes qui se posent et que ces questions doivent être adressées, que ce soit par la classe politique dans son ensemble, qui est d'ailleurs une spécificité française. Vous avez en France très peu de débats publics sur la Chine. La Chine ne fait pas l'objet d'un débat politique, comme c'est le cas depuis plusieurs mois en Allemagne, en Grande-Bretagne et évidemment aux États-Unis. Mais là, le contexte est un peu différent.
Alors évidemment, Pékin a répondu à Jean-Yves Le Drian en disant que bien évidemment il s'agissait de mensonges. Même discours de l'ambassade de Chine à Paris qui dit que Jean-Yves Le Drian, sans le nommer, mais que les responsables politiques français ont été induits en erreur par les États-Unis. Émilie Frankiel, je voudrais que l'on parle avec vous aussi de Hong Kong, parce que vous nous disiez tout à l'heure avant 8 heures que la question des Ouïghours n'intéressait pas particulièrement, on va dire, la population chinoise, même si, vous l'avez dit vous-même, il ne faut pas généraliser. Qu'en est-il de Hong Kong, où il y a eu donc récemment cette nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin, qui est analysée comme la fin de la démocratie à Hong Kong? Est-ce que Hong Kong et les réactions que ça peut susciter, est-ce que c'est un problème plus important pour la Chine?
Alors, vous avez raison, Hong Kong a beaucoup plus de presse en Chine. On parle beaucoup plus de la situation en Hong Kong depuis un peu plus d'un an. Et effectivement, il me semble que... Bon, bien sûr, c'est difficile pour certaines portions de la population de s'exprimer librement, ouvertement sur ces questions, mais il me semble que les opinions sont beaucoup plus partagées. Alors pourquoi? Parce que le discours officiel, qui est quand même accepté par une assez grande partie de la population, c'est que Hong Kong, c'est effectivement un endroit où en Chine on a plus de liberté, on se rapproche plus d'une démocratie à l'occidentale. Et voilà ce que ça donne, une jeunesse radicalisée, une économie ralentie, des familles qui ne peuvent pas sortir, un discours anti-chinois dans les universités, dans la rue, etc. Voilà, donc vous avez des informations assez caricaturales données sur Hong Kong, avec un appel à la fin du chaos, un appel à l'ordre. Voilà, il faut sauver Hong Kong de ce désordre. Vous avez une partie quand même assez importante de la population chinoise qui du coup va réagir d'une façon pas négative, qui ne va pas être indignée par les mesures prises dernièrement, qui finalement attendait presque ça, même si bien sûr il y a cette là on parle de bien sûr d'une partie qui est difficile à définir de l'opinion chinoise, mais y compris des élites intellectuelles, des personnes qui connaissent très bien Hong Kong, qui ont étudié dans nos universités, vont malgré tout être assez sensibles à ce discours. En revanche, il y a bien sûr une partie très importante de personnes qui, au contraire, souhaitaient que la Chine aille dans la direction d'Hong Kong, et que ce ne soit pas l'inverse finalement, qu'Hong Kong perde ses libertés, mais que la Chine continentale devienne de plus en plus comme Hong Kong. Et donc cette partie-là de la population est, encore une fois, vraiment je généralise, indignée et effarée en fait par ce qui est en train de se passer. Et en même temps, le discours de condamnation internationale ne passe pas très bien parce que, d'une part, et je voudrais le dire aussi en écho à ce que vous venez de dire, il faut qu'on connaisse mieux la Chine, et il faut que quand on condamne ce qui se passe en Chine et qu'on parle de la Chine, notamment en France, mais pas seulement, il faut aussi qu'on fasse preuve de, qu'on montre qu'on a pris le temps de vraiment comprendre la complexité de la situation en Chine, la diversité aussi des opinions, la complexité aussi des sentiments des Chinois, qui en même temps ont vu beaucoup de résultats malgré tout, beaucoup d'améliorations de leur niveau de vie en Chine, etc. Et qui sont sensibles aussi à ce discours qui est que à Hong Kong, il y a des révoltes parce que finalement, les Hongkongais n'acceptent pas que les classes moyennes urbaines en Chine vivent maintenant dans de meilleures conditions matérielles qu'eux.
Alors, il y a là également eu des réactions. La Grande-Bretagne, en particulier, a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong, Antoine Bondaz, au moment même aussi où le gouvernement de Boris Johnson a décidé de suivre les États-Unis sur la question de la 5G et de Huawei. Là encore, ça se croise. On a envie de dire ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça arrive en même temps.
Exactement, on a de très nombreux sujets, vous l'avez rappelé, Hong Kong, le Xinjiang, la 5G et au-delà. Il y a un aspect conjoncturel qui est que, par exemple, sur la question de la 5G, c'est la question de la prise de décision vis-à-vis de l'avenir sur la construction de ces réseaux. Et elle arrive en 2020 et en début 2021 pour certains pays. Et que tout cela apparaît parfois comme, en quelque sorte, coordonné quand ça ne l'est pas forcément. Au-delà, cela pose des questions notamment au niveau de l'Union européenne, au niveau des États membres de l'Union européenne sur des décisions importantes qui seront prises, notamment dans les relations avec la Chine. Devrait avoir lieu avant la fin de l'année un grand sommet Chine-Union européenne, le sommet de Leipzig. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que l'Union européenne va faire évoluer sa politique à travers notamment un papier de position, c'est-à-dire une nouvelle déclaration officielle assez forte de fin 2018, où on présentait la Chine comme un partenaire, comme un compétiteur, mais aussi comme un rival systémique, non pas systématique, mais systémique. Ce qui voulait dire que la Chine voulait présenter un système et l'opposer au système notamment européen.
Vous disiez tout à l'heure, il faut réadapter la façon dont on se positionne face à la Chine, parce que la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il y a ce rapport de sénateurs américains récent qui dénonce l'autoritarisme numérique de la Chine. Et clairement, on le voit bien aussi que c'est de plus en plus de ce côté-là que ça se joue, le rapport de force avec la Chine.
Alors effectivement, l'autoritarisme numérique chinois en Chine, mais aussi à l'étranger, à travers l'utilisation massive, par exemple, des réseaux sociaux ou des plateformes. On voit les médias chinois utiliser massivement YouTube. On voit les diplomates chinois utiliser massivement Twitter, alors même que ces applications sont bloquées en Chine. Pour vous donner juste quelques chiffres, il y a aujourd'hui à peu près 190 comptes Twitter associés à des diplomates, que ce soit des ambassades, des ambassadeurs, des consulats, des consuls, etc. Plus de 2/3 de ces comptes ont été créés ces 12 derniers mois. C'est-à-dire que l'objectif de la Chine, il est extrêmement clair. Il a été affiché par Xi Jinping dès 2014. C'est de, je cite, mieux raconter l'histoire de la Chine et mieux faire entendre la voix de la Chine. C'est-à-dire que les éléments de langage chinois soient repris à l'étranger, que les éléments de langage qui seraient critiques vis-à-vis de la Chine soient discrédités et qu'in fine, ce discours chinois, ce bataille des récits, comme le disait Josep Borrell il y a quelques mois, s'impose. Et au-delà, ce qui est fondamental en France et plus largement au sein de l'Union européenne, c'est qu'il y ait une recherche plus approfondie sur la Chine, une prise de conscience des défis vis-à-vis de la Chine et surtout que la Chine, dans le débat public, devienne un objet de discussion, qu'après les politiques qui soient adoptées aillent dans un sens ou dans l'autre, c'est une autre question, mais qu'au moins il y ait cette discussion qui est nécessaire et qui est indispensable.
Et cette meilleure connaissance dont parlait.
Et évidemment, une meilleure connaissance dont de nombreux sinologues français participent, mais il n'y a aujourd'hui peut-être en France, contrairement à d'autres pays, notamment en Allemagne et dans d'autres pays, peut-être pas la masse critique suffisante de chercheurs, d'experts sur ce pays. Or, la Chine, dans les décennies à venir, sera évidemment un acteur incontournable sur l'ensemble des gros sujets. Et juste pour conclure, on ne peut pas parler par exemple aujourd'hui de la question environnementale et du changement climatique si on n'a pas conscience que la Chine par exemple c'est 30% des émissions. Si vous voulez une politique environnementale qui permette de lutter contre le changement climatique, il faut forcément coopérer avec la Chine sur ces questions-là par exemple.
Merci beaucoup Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, et merci à vous également Émilie Franquiel, maîtresse de conférence à Paris-Est-Créteil, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt. Il est 8h30.